Voici les titres du journal.
Série d'annonces aujourd'hui de la part des cantons s'agissant de la situation sanitaire. Survol, le masque fera son retour en classe et la troisième dose de vaccin arrivera dès lundi. Et puis en Valais, le certificat Covid sera obligatoire pour se rendre dans les hôpitaux et les EMS. On fait le point dans ce journal en compagnie de Joël Espy. Le lauréat du mandat d'études parallèles de la place du marché à Aigle a été désigné. Les Aiglons pourront bientôt bénéficier de cet espace, un espace imaginé pour eux. Réduire le trafic des camions à travers les Alpes et transférer le transport de marchandises sur le rail demeure un objectif de la Confédération. Les progrès sont là, mais il reste de la marge selon le Conseil fédéral. Décryptage tout à l'heure en compagnie de notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Et puis du sport aussi en fin de ce journal. En basketball, dans une soirée électrique, le BBC Trois Torrents s'est incliné hier soir face à Nyon. Et en ski de fond, les cousins de B, Jovian Edinger et Erwan Kayser feront leur retour aux affaires demain à Ruka en Finlande.
Et pour la météo, un temps nuageux pour cet après-midi avec des précipitations et une limite de pluie neige qui va s'abaisser d'ici ce soir à 500 mètres. Pour demain, toujours un temps très nuageux avec des précipitations. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. À la suite du point sur la situation sanitaire du Conseil fédéral hier, les cantons annoncent leurs nouvelles mesures. On le sait, l'épidémie reprend et le mot cinquième vague n'est plus tabou dans notre pays. Vaud et Valais ont fait le point ce matin. Joël Espy, vous étiez à Lausanne.
Oui, Yves, au château où trois conseillères d'État ainsi que le médecin cantonal étaient présents, ça vous donne une idée de l'importance de la situation. Situation qui est délicate et vous l'avez dit, le canton essuie une nouvelle vague. On compte 300 contaminations par jour dans le canton de Vaud. Chargée du département de la santé et de l'action sociale, Rebecca Ruiz, égrène ce qui sera entrepris dès lundi.
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait pris un certain nombre de mesures dans le canton de Vaud. Par exemple, les tests systématiques pour le personnel de santé qui n'est pas vacciné. Ce type de mesure n'existe pas partout dans les autres cantons suisses. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire pour nous assurer en tout cas une situation plus ou moins stable dans un contexte sanitaire qui est très fragile, c'est d'abord de mettre le paquet sur la dose de rappel pour les plus de 65 ans. Dans le canton de Vaud, on a environ 36% de la population éligible qui est soit vaccinée, soit qui a pris rendez-vous. On veut absolument booster cette dose de rappel parce que ça nous renforcera de manière générale l'immunité et puis ça protégera évidemment ces personnes d'éventuelles hospitalisations, d'hospitalisations en soins intensifs qui sont évidemment les zones les plus critiques de l'hôpital puisqu'on ne peut pas étendre à l'infini le nombre de lits qu'on a dans ces unités-là. On prend aussi des mesures au niveau scolaire avec désormais de nouveau le port du masque en permanence pour les enfants de plus de 12 ans et puis on va renforcer de manière très forte les contrôles qui sont en vigueur, même si on en a fait beaucoup dans le canton, mais on revient avec des mesures de contrôle fortes.
Hôpitaux donc, mais c'est aussi l'école vaudoise qui est visée. Comme partout, le nombre de cas Covid y augmente, mais pas question de fermer des classes. Ce sera le masque pour les profs et les élèves dès le secondaire 1. Un masque recommandé mais pas imposé pour les enseignants du primaire. Une mesure utile, estime Cécile Amarel. Elle est la conseillère d'État chargée de l'éducation.
Alors l'intérêt, il est très clair, c'est la possibilité de continuer justement à ce que les élèves puissent continuer leur cursus, à ce qu'il n'y ait pas de propagation du virus, et puis à faire en sorte qu'on n'ait pas à fermer les écoles. Je pense dans un contexte où vous avez une augmentation assez massive en fait du nombre de cas, en particulier pour les 10-19 ans, eh bien c'est sûr que nous préservons en fait les écoles en plaçant des gestes barrières, en mettant en place des masques pour le secondaire 1, c'est-à-dire pour les 12-16 ans. Et puis, nous avons de cette manière-là la possibilité de ralentir cette propagation du virus et de faire en sorte que les élèves puissent continuer leur cursus de la manière la plus sereine possible.
Les mesures évidemment qui s'appliquent pour le reste de la population et il y a bien entendu, on l'a dit, la vaccination. Dès lundi, ce sera l'arrivée de cette fameuse troisième dose. Ce sera pour le personnel soignant spécialisé ainsi que les plus de 65 ans. Au canton de Vaud de communiquer pour rappeler à la population de le faire. Elle encourage déjà les personnes de plus de 65 ans s'inscrire pour ces vaccinations. Pour l'heure, la vaccination mobile automobile n'est pas nécessaire à mettre en place. On est toujours sur une base volontaire, donc, hein, pour cette inscription à la vaccination. Ce sera l'HRC, l'hôpital Rivière-à-Chablais, principalement, que cette population, ce sera là que cette population toujours à risque, donc les plus de 65 ans, pourra se rendre dans le Chablais. Mais attention, en ce moment, il y a un petit peu d'attente, quelques jours, voire une ou deux semaines, la situation peut évoluer au fil des jours. Quant à la protection civile, il en a été question ce matin également, qui participe donc à cette vaccination itinérante. Elle entame son désengagement du terrain. C'était programmé donc pour le mois de novembre 2021, parce qu'après deux années records du point de vue de la mobilisation, la situation devait se détendre. Il en allait de la stabilité professionnelle, évidemment, des astreints qui sont tous des volontaires. Écoutez, Béatrice Métraux, elle est la conseillère d'État chargée de la sécurité.
Mais oui, on peut pas non plus demander pendant deux ans aux employeurs de libérer les astreints. C'est une contrainte importante pour les employeurs. Donc, comme nous avons cette organisation qui roule maintenant, nous avons organisé par exemple le centre de Beaulieu. Au départ, un certain nombre d'astreints étaient présents. Nous avons basculé sur un autre type de personnel, du personnel, par exemple, infirmier ou autre. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, on voit que la protection civile, réserve stratégique aussi spécialiste en matière de logistique, elle interviendra si on en a besoin pour préparer cette troisième dose.
Et donc la protection civile reste convocable en tout temps au cas où la situation redeviendrait critique. Et ajoutons évidemment cette dernière information, c'est que les cantons romands se sont coordonnés, d'où toutes ces annonces qui tombent ce matin.
Et merci Joël. Et précisément, côté valaisan, le Conseil d'État a communiqué ses mesures ce matin également. Dès lundi prochain, le certificat Covid sera obligatoire pour les visiteurs se rendant dans les hôpitaux, cliniques, EMS, foyers de jour et institutions sociales du domaine adulte. Dans les écoles, les tests répétitifs hebdomadaires seront réintroduits dans les cycles d'orientation et la gestion des flambées de cas renforcées à tous les niveaux de la scolarité. Les autorités sanitaires rappellent en outre que la vaccination et les gestes barrières sont les solutions les plus efficaces pour se protéger du Covid-19 et de ses complications. Encore quelques années de patience et la place du marché à Aigle arborera son nouveau visage. Le lauréat du mandat d'études parallèles a été désigné par la municipalité d'Aigle, qui l'a communiqué hier à la presse. Un consortium d'architectes et d'ingénieurs a développé ce projet intitulé Crapaud fou. Il se devait d'intégrer des thématiques diverses telles que les aménagements paysagers, les flux de mobilité, la mise en valeur du patrimoine, l'accessibilité des usagers et les exigences en termes de développement durable et d'entretien. Il propose ainsi une fontaine, un jardin ou encore des îlots végétalisés. De quoi satisfaire les aiglons qui pourront se réapproprier cette place, comme nous l'explique le syndic d'Aigle, Grégory Deveau.
Bien sûr, c'est que la situation actuelle, elle dure déjà trop. On a cherché un peu à aménager, à pouvoir centraliser la question du stationnement à l'extérieur de la place. Là, on va l'animer pour les fêtes de fin d'année. Le Covid est passé là au milieu, mais surtout la situation, elle ne peut plus durer. On doit pouvoir porter des changements, requalifier ces espaces, y redonner une vraie qualité en termes de simplement de passants et d'usagers de cette place, mais aussi penser à une vraie utilité, que ce soit au quotidien pour l'administration, pour les restaurants, les cafés, les et tous les commerces, et puis de manière plus ponctuelle sur les manifestations, puisqu'on espère tous encore une fois qu'on puisse relancer une vie à peu près normale avec une vie d'un gros village comme la ville d'Aiglet de 100 000 personnes.
Une exposition du projet lauréat et des trois autres propositions sera organisée début 2022 et ouverte au public. Les travaux, eux, sont espérés pour 2023. C'était un sujet signé Valérie Blom. Business Valais change de nom et d'identité. Il devient Promotion Économique Valais. Rassemblant 6 partenaires, son objectif est d'offrir une meilleure visibilité des prestations mises à disposition des entreprises et des futurs entrepreneurs. Le nouveau site internet reprend quant à lui la ligne graphique de la marque Valais. Vous dire aussi que la première édition des vitrines de l'insertion a lieu le 1er décembre à Sion, organisée par l'association Insertion Valais sous le titre Circulier Il y a à voir. L'événement a l'ambition d'informer le public sur les enjeux de l'économie circulaire et de démontrer leur valeur ajoutée. Il va également mettre en avant les initiatives mises en œuvre dans le canton et en Suisse. Les fondations Beaucite et Ebenezer fusionnent. Dès le 1er janvier prochain, les activités de la première, qui comprennent les EMS Beaucite, Montbrillant, Le Maillon et Cotomura à Clarence, seront regroupées avec celles du Home Salem à Saint-Légier. Ce rapprochement permet à la fondation Ebenezer de créer sur la Riviera un pôle multisite efficient et de haut niveau dans le domaine gériatrique, parallèlement à ses activités dans celui de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Sa gouvernance a elle aussi été revue et modernisée. Le tunnel du Montchemin à Martigny sera fermé la nuit prochaine. Les systèmes de pilotage des ventilateurs d'éclairage et de l'énergie ont été renouvelés. Les travaux sont maintenant terminés et les mécanismes seront soumis à des tests approfondis. Le tunnel sera ainsi fermé dans les deux sens entre ce soir 22h et demain matin 5h. Pour les effectuer ces tests, une déviation sera mise en place. Actualité nationale à Genève, un millier de personnes ont manifesté hier soir dans le calme contre la venue d'Éric Zemmour. Le polémiste candidat potentiel à la présidentielle française était invité à une conférence débat avec l'avocat genevois Marc Bonan. Organisé par l'association Convergence, cet événement s'est tenu à l'hôtel Hilton du Grand Saconnet où Éric Zemmour est arrivé vers 20h. En fin d'après-midi, le groupe de déminage de la police genevoise a procédé à des vérifications dans l'hôtel suite à des alertes aux colis piégés, mais il n'a rien trouvé de suspect. Au même moment, des centaines de personnes, surtout jeunes, se réunissaient au centre-ville, à proximité de la gare de Cornavin, à l'appel d'une soixantaine d'associations, de collectifs, de syndicats et de partis de gauche réunis en assemblée de lutte antifasciste. Le cortège autorisé avait pour but, je cite, de ne pas laisser de place au discours qui normalise le fascisme et le racisme. La manifestation a ensuite traversé le quartier populaire des Paquis avant de rejoindre la place des Grottes derrière la gare. Après avoir appelé une nouvelle fois à s'opposer aux idées du français, une jeune femme a dissous la manifestation à 20h30. Sur un mur, une banderole enjoignait à se rendre alors à l'hôtel Hilton. Les dépenses de santé augmenteront de 7,3% en 2021 à cause de la pandémie pour atteindre 91 milliards de francs. Le taux de croissance devrait être plus faible en 2022 et 2023 selon les prévisions du Centre d'études conjoncturelles, le COF de l'EPA. L'École Polytechnique Fédérale de Zurich, établie en partenariat avec Comparis, est rendue publique aujourd'hui. C'est un objectif de l'initiative des Alpes adoptée en 1994, réduire le trafic des camions à travers les Alpes et transférer le transport des marchandises sur le rail. Près de 30 ans après, il y a des progrès, notamment depuis l'ouverture complète de la ligne à travers le Gothard, mais il reste de la marge, note la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, laquelle faisait le point à ce sujet ce matin à Berne. Et elle a des idées. On écoute les explications de notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.
Simonetta Sommaruga n'est pas peu fière de voir le trafic des marchandises passer progressivement de la route au rail à travers les Alpes. La part du rail atteint désormais 74,4% et le nombre de camions à avoir franchi le massif est descendu à 900 000. On est toutefois encore loin de l'objectif de l'initiative fixé à 650 000 courses par la route. Évidemment que les mises en service des 57 km du tunnel de base du Gothard il y a 5 ans et en décembre 2020 du tunnel du Ceneri ont facilité le transfert vers le rail. On n'est pourtant pas au but, souligne Simonetta Sommaruga. Elle a demandé au Conseil fédéral, qui a accepté hier, de poursuivre jusqu'en 2028 le soutien financier à la chaussée roulante. Elle permet de transporter sur le rail des camions entiers, sans chauffeur, à travers toute la Suisse. C'est un soutien de 20 millions par an. La ministre doit élaborer pour l'été prochain un nouveau concept de RPLP qui ne tienne plus seulement compte des gaz d'échappement, mais aussi des émissions de CO2 afin de forcer les transporteurs à adapter leur parc de véhicules. Il subsiste un double problème important pour exploiter au mieux le potentiel de la NLFA du Gothard, qui doit permettre, dès fin 2022, d'avoir 6 trains de marchandises par heure dans les deux sens, de 740 mètres de long, 2000 tonnes et 4 mètres de haut. Ce sont les chantiers ferroviaires en Suisse qui ralentissent les convois et les sillons ferroviaires à l'étranger, pas encore adaptés, dans la vallée du Rhin en Allemagne et en Italie.
Serge Jubin, donc, du Palais fédéral à Berne. Et on ne quitte pas le rail pour vous dire que les CFF ont élaboré une nouvelle stratégie jusqu'en 2030. La première étape, d'ici à 2025, met l'accent sur la robustesse de l'infrastructure ferroviaire et la stabilité financière. Voilà ce qu'a annoncé l'entreprise aujourd'hui devant les médias réunis à Berne. De manière générale, cette nouvelle stratégie privilégie les clients et le cœur de la philosophie des chemins de fer. ponctualité, fiabilité, sécurité, proclame l'entreprise. Les chemins de fer veulent devenir plus flexibles et plus efficaces. La croissance doit être générée dans les secteurs où les CFF sont déjà forts. L'entreprise se trouve actuellement, on le sait, dans une situation difficile en raison de la pandémie. Elle a enregistré un déficit record de 617 millions de francs en 2020. En même temps, la pandémie a révélé un besoin de plus de flexibilité, ce qui rend le comportement des voyageurs moins prévisible. Selon les prévisions de la Confédération, la mobilité continuera d'augmenter, notamment grâce à l'appétit de certains passagers pour des voyages respectueux du climat. La crise a aussi renforcé d'autres formes de travail. Ruag MRO a annoncé aujourd'hui la démission de son directeur général, Andreas Berger, à la fin de l'année. À compter de décembre, Peter Bodmer sera chargé de diriger par intérim l'entreprise qui est active, on le rappelle, dans les prestations destinées à l'armée suisse. Dans un communiqué, le conseil d'administration a remercié Andreas Berger pour son engagement et son aide lors de la dissociation de Ruag en deux secteurs indépendants, Ruag MRO Holding et Ruag International, qui doit être achevé d'ici la fin de cette année. Un train RER a percuté une voiture hier soir près d'un passage à niveau à Gingen, dans le canton de Bâle-Campagne, sur la ligne Bâle-de-Léman. Le conducteur de l'auto a été blessé. Il était fortement alcoolisé, indique la police. Une genevoise parfaite, bilingue, français-allemand, remplacera la fribourgeoise Isabelle Chassot à la tête de l'Office fédéral de la culture. Cette dernière a été élue au Conseil des États, elle prêtera serment lundi. La nouvelle patronne de l'Office fédéral de la culture se nomme Karine Bachmann. Elle a 54 ans et elle a des origines jurassiennes, un parcours de vie et professionnel qui l'a conduite en Argovie, à Zurich, à Lucerne, en Asie ou encore à Genève. Elle est depuis 10 ans directrice du département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève. Karine Bachmann prendra ses fonctions à Berne le 1er février. Elle exprime sa vision de la politique culturelle.
Je m'engage à soutenir avec audace et détermination la richesse, la vivacité et la diversité culturelle en Suisse, aux côtés de l'équipe de l'OFC et de son partenaire le plus proche, Pro Helvetia. La culture a payé un lourd tribut en raison de la pandémie du Covid. Mais cette période difficile aura au moins eu le mérite de nous démontrer qu'en Suisse, la culture est une affaire de partenariat. Dans ce cadre, l'Office fédéral de la culture a un rôle essentiel à jouer en engageant d'une manière proactive la concertation avec les milieux culturels et les principaux acteurs de la politique culturelle.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin. Les marchés de Noël ont fait leur grand retour en Suisse ou sont sur le point d'ouvrir leurs portes après une année d'absence. La pandémie épée de Damoclès continue toutefois d'inquiéter exposants, organisateurs et visiteurs. Si les règles diffèrent selon les cantons, absolument tous les marchés ont dû mettre en place des mesures spécifiques pour lutter contre la transmission du virus, alors que les cas de Covid-19, on l'a entendu tout à l'heure, augmentent de semaine en semaine. L'Alouette des champs a été désigné oiseau de l'année 2022 par BirdLife Suisse. De petite taille et avec un plumage cryptique, elle fait partie des plus endurants et meilleurs chanteurs du monde ailé. Espèce des paysages cultivés ouverts, elle vit depuis des siècles à proximité de l'homme. Ces dernières décennies, toutefois, elle est décimée par l'industrialisation croissante de l'agriculture. En tant que représentante des nombreuses espèces en déclin du milieu cultivé, elle montre l'urgence d'une réorientation de la politique agricole. Selon l'Association pour la protection des oiseaux. On passe à l'actualité internationale. 5 personnes ont été tuées aujourd'hui et plus d'une dizaine blessées lors de l'explosion d'une voiture piégée près d'une école de la capitale somalienne Mogadiscio, annoncé un responsable de la sécurité. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les autorités attribuent généralement ce type d'attentat au groupe djihadiste des Shehab, lié à Al-Qaïda. La justice égyptienne a condamné aujourd'hui à mort 22 djihadistes, dont un ancien officier de police pour 54 attaques, dont l'assassinat d'un officier du renseignement. Voilà ce qu'a affirmé une source judiciaire à l'agence France Presse. Outre ces peines capitales pour lesquelles tous les recours en appel ont été épuisés, la Cour de cassation a également confirmé des peines de prison allant de plusieurs années à la perpétuité contre 118 autres accusés, a ajouté la source. L'État français a été condamné aujourd'hui à verser une indemnisation à la famille de Rémi Fraisse, ce manifestant tué lors d'une charge de gendarme mobile dans le Tarn en 2014, a annoncé le tribunal administratif de Toulouse. Ce dernier a reconnu une responsabilité sans faute. Les ayants droit de la victime toucheront à titre de tort moral un montant de 46 400 euros, écrit le tribunal dans un communiqué. Emmanuel Macron a fait savoir à Boris Johnson lors d'un entretien téléphonique qu'il attendait des Britanniques qu'ils coopèrent pleinement et qu'ils s'abstiennent d'instrumentaliser une situation dramatique à des fins politiques après la mort hier de 27 migrants dans la Manche, a indiqué l'Élysée aujourd'hui. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'agir dans la dignité, dans le respect et dans un esprit de coopération efficace s'agissant de vies humaines, a ajouté la présidence française, précisant que les ministres de l'Intérieur français et britannique s'entretiendront aujourd'hui de cette question. Une femme va présider le comité international de la Croix-Rouge pour la première fois depuis le lancement de l'organisation il y a près de 160 ans. Mirjana Spoljaric-Eger prendra ses fonctions en octobre prochain, annoncé aujourd'hui l'institution à Genève. Cette diplomate suisse a été désignée par l'Assemblée, organe suprême de l'organisation, pour un mandat de 4 ans renouvelable. Elle remplacera Peter Maurer, lequel a passé 10 ans à la tête du CICR, actuellement sous-secrétaire général de l'ONU. Madame Spoljaric Eger est en charge de l'Europe au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Elle fait partie des Suisses les plus élevés au sein du système onusien. Et on termine ce journal avec une page de sport. Curling, les Suissesses ne seront pas au rendez-vous des demi-finales des championnats d'Europe à Lillehammer en Norvège. Malgré leur large succès 10-1 acquis ce matin contre l'Italie, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières sont éliminées avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites. Les doubles championnes du monde en titre doivent se contenter de la 5e place du tour préliminaire. Elles sont devancées à la confrontation directe par l'Allemagne. On reste dans les sports d'hiver, hein, c'est à peu près de saison ou presque, en tout cas, où on y arrive en tout cas. La Coupe du Monde de ski de fond reprendra ses droits demain pour Erwan Kayser et Jovian Edinger. Les deux cousins de B seront au départ du sprint de Ruka en Finlande. Après 7 longs mois de préparation, les Chablaisiens vont enfin pouvoir goûter aux joies de la compétition. Et cette saison aura une saveur encore plus particulière qu'à l'accoutumée. En plus d'être marquée par les Jeux Olympiques de Pékin en février, ce sera surtout la dernière pour Jovian Edinger. À quelques mois de la fin de sa carrière, le Vaudois se sent-il transcendé par cette annonce, ou alors craint-il qu'elle ne vienne le perturber? On écoute sa réponse.
Je crois vraiment l'un ne va pas sans l'autre, et c'est vrai que pour l'hiver qui approche, bah, typiquement on va attaquer à Kuusamo. C'est un endroit où j'ai vécu des courses quand même assez exceptionnelles, les débuts de saison chaque fois avec énormément de tension et souvent pour moi la confirmation que tout se passait bien. Donc c'est tous des endroits que je risque de ne pas beaucoup revoir après. On va jamais dire jamais parce que voilà, il y a pour X raisons, ça veut pas dire que je vais jamais retourner. Mais oui, c'est quand même chaque fois des choses assez particulières. Et puis je pense que vraiment, je vais essayer de me nourrir de cette motivation, du fait de profiter, tout en voulant absolument j'arrête relativement tôt aussi parce que je veux être encore à 100% performant et ça, je vais bien vouloir le montrer que c'est encore le cas, ouais.
Mais si cette saison s'annonce particulière pour Jovian Edinger, elle le sera aussi pour son cousin Erwan Kayser. Dès le printemps prochain, le Bellerin devra se préparer seul. Une situation que le fondeur chablaisien de 29 ans aborde assez sereinement. Erwan Kayser.
Je me réjouis de voir comment moi je vais réagir aussi personnellement, parce que voilà, jusqu'à maintenant on était toujours à deux, quoi, malgré qu'on soit pas dans le centre national de Davos, on se retrouvait sur B à deux à s'entraîner. L'année prochaine, d'un coup je vais me retrouver tout seul, du coup ça risque d'être intéressant de voir ce que je vais réussir à faire de moi, et on verra l'année prochaine, ouais.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Pour leur rentrée sur le front de la Coupe du Monde de ski de fond, Erwan Kayser et Jovian Edinger seront donc au départ demain matin du sprint de Ruka en Finlande. On passe au basketball où le BBC 3 Torin est passé proche de la victoire en SB League Women. C'était hier soir. La formation Chork s'est inclinée 70-66 face à Nyon Basket, deuxième du classement. Dans ce choc du haut de classement, ce sont les visiteuses qui ont pris les rênes de la partie. Les Chablaisiennes, mal rentrées dans cette rencontre, rejoignaient le vestiaire avec un retard de 7 unités. Au retour de la pause, elles ont montré un tout autre visage. Poussées par le public du reposio, elles ont même pris l'avantage à 3 minutes de la fin du match avant de craquer dans les 60 dernières secondes. Malgré la défaite, la réaction en deuxième période a été significative. Quels ont été les mots de José González Dantas à la mi-temps dans le vestiaire Sochorg? La réponse de Camille Delaquie, joueuse du BBC 3 Toran.
Déjà, il s'est dit que c'était qu'une mi-temps, on avait 20 minutes, on était dans le match. Le but à la mi-temps, c'était d'être dans le match. Et après, à partir de ce moment-là, c'était un tout nouveau match et il fallait remettre de l'intensité, jouer plus ensemble. et essayer de revenir. Et puis petit à petit, en revenant, après, on peut avoir des matchs où c'est plus serré, où on peut essayer de jouer la gagne à la fin.
Dans le cas adverse, si l'ensemble de la rencontre a été maîtrisée, on n'oublie pas ce petit coup de chaud vécu dans les trois dernières minutes. Une alerte qui aurait pu changer toute la physionomie de la rencontre, comme l'expliquait Ruga, joueuse de Nyon Basket, qui retrouvait hier soir ses anciennes coéquipières.
Ouais, c'était un peu stressant, j'avoue, de perdre de 4 points vers 3 minutes de la fin. Mais voilà, je pense qu'on s'est fait vraiment confiance entre nous. Et puis la défense, je dirais vraiment faire des stops défensifs. Et ensuite, ça nous remet dans le match pour attaquer. Et puis on a mis des paniers aussi importants, donc ça nous a permis de gagner.
À titre personnel, vous affrontiez votre ancienne équipe. Comment vous l'avez vécu, tout simplement, de retrouver la salle du Reposieux ?
Ça me fait toujours plaisir de revenir à la salle du Reposieux et puis de jouer contre Trois Torrents parce que voilà, c'est un club qui me tient à cœur et puis il y a beaucoup de supporters aussi, donc ça me fait toujours plaisir de revenir ici.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Prochain match, le BBC Trois Torrents se déplacera du côté de Plan-les-Ouates. La formation Chorg ira défier Genève Elite. Ce sera samedi à 17h. La bataille sera rude lors des Sport Awards. Dans la catégorie de l'équipe de l'année, nommée aujourd'hui, le trio finaliste est composé de la sélection suisse de football, du relais 4x100 mètres dames en athlétisme et du double de tennis composé de Belinda Bencic et Victoria Golubic. Ce dernier s'est éparé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Chez les entraîneurs, le titre se jouera entre Laurent Meuvely en athlétisme, Edmund Tessler en cyclisme et Beat Thuor en ski alpin. Enfin, Heinz Frey, Marcel Huguet, Manuel Acher sont en lice dans la catégorie du sportif paralympique. Les votes sont ouverts au public jusqu'à mardi prochain sur le site www.sport-awards.ch. Quant aux vainqueurs, ils seront connus le 12 décembre à l'occasion d'un gala TV dans les studios de la SRF à Zurich.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. Radio Chablais. La météo.
Le temps sera nuageux cet après-midi avec quelques précipitations qui tomberont sous forme de neige au fur et à mesure, puisque Météo Suisse nous annonce une limite pluie-neige qui va s'abaisser à 500 mètres d'ici la nuit. Il va faire au maximum 6 degrés en pleine, 5 à 1000 mètres et 6 à 2000.
Et pour demain, eh bien, on prend les mêmes et on recommence avec une journée pour le plus souvent très nuageuse, avec par moments des précipitations plus fréquentes en montagne et une limite des chutes de neige qui se situera vers les 500 mètres, tout comme pour ce soir. J'espère que tout le monde a penser à sortir leur pneu neige. Et pour les températures, Météo Suisse nous annonce 0 à 1000 mètres au meilleur de la journée de demain et 5 pour la plaine. La météo sur 6 jours.
Radiochablais.ch.